le livre de la Genèse. Je voudrais pendant quelque temps vous parler sur Isaac, pendant 2 ou 3 dimanches, probablement 3. On lit dans Genèse chapitre 24, verset 62. Je voudrais aujourd'hui parler de Isaac et sa famille. Alors je reste dans la continuité de ce qui a été partagé la semaine passée, en rappelant que dans le livre de la Genèse, le contexte familial est différent. On a une polygamie qui est environnante et parfois même tolérée de la part de Dieu. C'est étonnant, mais le contexte est différent. On a des mariages entre cousins, on trouve ça. Et puis on a des mariages arrangés, ce qui ne se fait plus, tout au moins dans notre pays, de manière générale. Malgré ce contexte, on va pouvoir tirer des enseignements, des leçons du parcours d'Isaac et de Rebecca. Genèse chapitre 24, verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Achaï, Roy, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. La première pensée que je voudrais partager ici, et quand on lit ce passage, on a envie de se dire « Oh, que c'est beau !» Alors, ce n'est pas le prince qui arrive sur son cheval blanc, mais c'est la princesse qui descend de son chameau. Mais enfin, ça reste quand même beau. Hein, ces versets pourraient faire la fin d'une comédie romantique ou d'un beau roman d'histoire d'amour. Sauf que, ne perdons pas de vue que ce n'est pas la fin, c'est le début. Et on aime bien savoir comment les couples se sont rencontrés. On aime bien, en plus, quand il y a la main de Dieu, quand c'est providentiel. Et parfois, c'est vrai qu'on voit la providence divine dans la rencontre de certains couples. Mais le plus important, ce n'est pas comment ils se sont rencontrés. Hein. C'est comment ils ont vécu ensuite. Parce que malgré la belle rencontre orchestrée par Dieu, le couple d'Isaac et de Rebecca ne fut pas si harmonieux que ça. Et c'est ce qu'on va voir. Et c'est même triste à dire, mais des fois vous avez des couples qui ont des rencontres providentielles. Le Saint-Esprit a tout agencé, tout orchestré. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Hein. Donc des fois, il vaut mieux que ça commence un peu bas, mais que ça monte dans les hauteurs, que ça démarre des fois dans les hauteurs spirituelles pour finir dans le décor. La bénédiction sur un couple et sur un foyer dépend de nos choix de vie et de notre manière de vivre. Elle ne dépend pas de la providence divine, même si ça a sa part. Je veux le rappeler. Et puis, je me permets de dire ça, ça m'ouvre une porte. Mais la bénédiction de Dieu ne dépend pas d'une cérémonie de mariage. La cérémonie de mariage, elle n'existe pas dans la Bible. Donc, elle aura le sens que nous lui donnerons. Et ce qui est sûr, c'est qu'une cérémonie de mariage ne peut pas être une transmission de bénédiction. Qui on est, nous, pour bénir quelqu'un? On n'a pas le pouvoir, même un pasteur n'a pas le pouvoir de transmettre la bénédiction. C'est nous qui donnons un sens à la cérémonie de mariage. Et il me semble qu'il y a 2 sens qu'il faut donner à une cérémonie de mariage. Le premier, c'est d'annoncer l'évangile. On dit Amen, mais attention, ça veut dire que Christ doit être au centre. De plus en plus, dans les cérémonies évangéliques, il y a des choses qui me chagrinent, c'est que finalement, ce sont les mariés qui sont au centre. Ce n'est plus le Seigneur. Il faut annoncer Jésus-Christ. C'est Christ qui doit être élevé. Et puis, le deuxième sens que l'on peut donner, c'est que finalement, c'est l'occasion pour se réjouir devant le Seigneur pour que l'Église se réjouisse avec les jeunes mariés. Mais dans ce cas-là, rappelons-nous qu'il y a des fois des mariages sur lesquels on ne peut pas associer l'Église. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais rappelons-nous quand même que le début c'est bien, mais mieux vaut la fin que son commencement. La deuxième pensée que je veux partager, c'est que finalement, Isaac, il n'a pas tellement choisi sa femme. On lui a proposé, il pouvait la refuser quand même. C'est le serviteur Eliezer qui va être envoyé par Abraham, il avait des critères, il devait choisir quelqu'un de sa famille, etc. Il y est allé, puis Dieu va orchestrer les choses pour qu'il tombe sur Rebecca. Mais il nous est dit qu'il l'aima. Et finalement, c'est ça le plus important. Il y a quelques années, mon pasteur recevait un couple, et notamment c'est l'homme qui avait parlé, et l'homme avait parlé de cette manière-là. Voilà 10 signes que notre mariage est la volonté de Dieu. Et il y a eu tel don spirituel, j'ai lu tel verset, ta 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 ta. Le pasteur l'a écouté gentiment, il lui a dit, dans tes 10 raisons, à aucun moment tu m'as dit, je l'aime. Des fois on peut être super spirituel, mais je préfère des fois quelqu'un dire, je l'aime et j'ai envie de me marier avec elle, qu'une révélation je ne sais où. Attention, c'est peut-être très terre à terre ce que je dis, mais je fais descendre un petit peu. Notons aussi l'ordre, c'est intéressant. C'est pas il l'aima et elle devint sa femme, il devint sa femme et il l'aima. L'amour, on décide pas qui c'est qu'on va aimer, hein. Mais une fois qu'on s'est engagé, une fois que l'amour a été scellé par le mariage, là on a décidé d'aimer et on aime jusqu'au bout. Et c'est intéressant parce qu'il est dit, on connaît ce texte qui nous a été rappelé, surtout aux hommes, « Marie, aimez vos femmes ». Et c'est le mot « agapo ». Alors c'est intéressant parce qu'au départ, quand on aime sa fiancée, ce n'est pas l'amour agapé, hein, ça sera un équilibre entre l'amour philia, l'amitié, hein, ça passe, le courant passe, il y a de l'électricité. Et puis c'est aussi... Il y a une dimension sur l'amour eros, il y a un désir physique. On ne va pas se marier avec quelqu'un qu'on ne pourrait pas toucher. Mais ensuite, il dit, Marie, agapez vos femmes. Ça veut dire d'être prêt à se donner. Comme s'il y a une troisième dose d'amour qu'ils doivent dire ensuite. Et en tout cas, la Bible, elle nous dit, tu aimeras. Elle parle comme ça, la Bible. Quand quelqu'un divorce, c'est parce qu'il a cessé d'aimer. Il y en a au moins un des deux qui a cessé d'aimer. Hein, je corrige. Mais la Bible nous invite à... Rappelons-nous que l'amour, c'est un engagement. Je dis ça parce que des fois, au départ, il y a une courbe émotionnelle. Après, il peut y avoir une phase de... On rentre dans un train-train, dans une routine. Mais nous avons décidé d'aimer. Et jusqu'au bout. Genèse, chapitre 25, verset 19. Les infirmières, avant de faire une piqûre, elles vous disent gentiment, ça va piquer. Hein. Bon, ça peut picoter un peu, mais bon. Des fois, elles nous feintent même. Elles vous disent, ça va piquer, puis elles vous piquent avant de vous piquer. Hein. Genèse, chapitre 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre. » Et deux peuples se séparant au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé d'une soixantaine de 60 ans, lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Amen. Une troisième pensée, un premier problème va apparaître et durer environ 20 ans. Rebecca était stérile. Alors il y a souvent des problèmes de stérilité, notamment dans la jeunesse, peut-être liés déjà aux problèmes de consanguinité. Là aussi, il peut y avoir d'autres choses. En tous les cas, la question que je me suis souvent posée, pourquoi c'est Rebecca qui est stérile? Alors là, on peut répondre. Dans certains cas, on peut répondre quand il y a polygamie. Dans le cas de Jacob, on sait que Rachel est stérile parce que Léa, elle a déjà toute une équipe de basket. Et Rachel, elle attend encore, donc on pense aussi à Anne et Pénina. Mais dans le cas de Rebecca, pourquoi on dirait que c'est... Alors, Isaac pouvait dire, moi j'ai la promesse, une postérité, donc le problème, il est chez toi. Bah, peut-être. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle souffrait de l'absence d'enfant. Et on sait que la stérilité, encore plus à cette époque, faisait tomber une opprobre. L'opprobre, c'est un mélange entre la tristesse et la honte. Elle constituait parfois un jugement de Dieu, mais souvent c'était une épreuve, un temps difficile et souvent beaucoup plus mal vécu par l'épouse, par la femme, que par l'homme. J'ai l'impression qu'Isaac, il a mis du temps à réagir. Vous savez, quand on souffre pas trop, on fait une requête. Et quand on souffre, on fait monter des supplications. Et il nous est dit ici, c'est quand il a prié, il a imploré, il a supplié pour sa femme. Il a imploré Dieu. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Alors, il a mis du temps. Hein, ça a mis une vingtaine d'années pour... On a l'impression que Dieu attendait la supplication d'Isaac pour répondre à cette prière. Il y avait le temps de Dieu. Il y avait aussi... C'était une épreuve. Dieu l'est testé. Notons quand même que Isaac, il n'a pas cherché notre voie comme Abraham, ni comme Jacob, qui va aller vers les servantes de ses épouses. Hein. En tous les cas, il y a là un enseignement pour nous, c'est que la prière pour son conjoint n'est pas une option. Des fois, on fait monter des requêtes, des fois, on supplie. Mais on prie pour son conjoint. Alors, on ne prie pas pour que notre épouse nous fasse bien la cuisine ou je ne sais quoi. Hein. On ne prie pas pour nos enfants pour qu'ils réussissent à l'école, même si ça peut être un sujet de prière. On prie d'abord pour qu'ils soient sauvés quand ils ne le sont pas. On prie pour que l'œuvre de Dieu qui se passe dans leur cœur. On supplie le Seigneur. Et c'est important que... Des fois, on est très bon pour prier pour le monde entier. On est très bon pour prier autour de nous. Mais prions pour notre conjoint. Prions pour nos enfants. On le fait. Je crois que c'est notre responsabilité. On peut attendre que d'autres le fassent. Mais c'est quand même notre champ, c'est notre responsabilité. Alors je ne mesure pas, mais des fois je me dis, il y a des choses qui dépendent quand même de ma prière. Et je ne voudrais pas être un point de blocage dans l'œuvre de Dieu parce que je ne prie pas de la manière dont il faut. Peut-être que Dieu attend une prière, un état d'esprit, je ne voudrais pas être un point de blocage à ce niveau-là. Retenons que c'est quand Isaac a imploré que la situation s'est débloquée. Ça doit nous interpeller, surtout en tant qu'époux. Mais c'est important de prier pour nos enfants. On a une responsabilité. On sait très bien que chacun est responsable de son salut. Mais quand même, j'aime beaucoup ce témoignage d'une sœur qui me l'a raconté plusieurs fois. Elle s'est convertie, elle avait 15 ou 16 ans. Elle a vraiment découvert le Seigneur, une rencontre formidable avec le Seigneur. Et puis un jour, dans un mariage, elle va... rencontrer un jeune homme, et puis il va se passer ce qui ne devait pas se passer, mais elle va commencer à avoir dans son cœur des sentiments pour lui, et ça sera le seul homme qu'elle aura dans sa vie, et elle va se marier. Elle va même se marier à l'église catholique, alors qu'elle avait donné sa vie à Jésus-Christ. Elle me disait, parce qu'elle me l'a dit à plusieurs fois, même quand elle rentrait dans l'église catholique, elle demandait pardon au Seigneur dans son cœur, elle savait qu'elle commettait une erreur. Elle l'a fait, elle va vivre comme ça avec lui des années. Puis un jour, elle va se réveiller en pleine nuit parce qu'elle n'avait pas abandonné sa foi. Mais elle ne pouvait plus la vivre comme elle le voulait. Elle va se réveiller en pleine nuit. Et là, le Seigneur va lui dire, le salut de ton enfant, l'âme de ton enfant, je te la redemanderai. parole claire. Et là, elle a pris conscience, elle a dit, parce qu'elle avait encore jamais amené son enfant à l'église. Et là, elle a pris la décision, j'irai. Ça a déclenché les hostilités dans le foyer. Ça a déclenché la guerre et ça a abouti sur un divorce. Mais elle a pris la décision parce que Dieu l'avait appelé à un moment donné de s'occuper du salut de l'âme de son enfant. Et je crois que c'est une responsabilité pour nous. Vraiment, on prie pour ça et c'est un point qui est important. La résolution du problème de la stérilité va déboucher sur un autre problème, c'est que la grossesse va être compliquée. Une grossesse mouvementée avec les deux qui commençaient à se chamailler déjà à l'intérieur. Ouais, c'est étonnant sa réflexion, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? C'est pas parce que j'ai la certitude d'être dans le plan de Dieu que je n'ai pas de problème. Hein. Des fois même, je sors d'un problème, c'est pour entrer dans un autre problème. Hein. C'est pas toujours si simple, c'est pas toujours linéaire. Hein. Et c'est pas parce que je n'ai pas de problème que je suis dans le plan de Dieu. Hein. C'est des fois plus compliqué que ça avec le Seigneur. En tout cas, Rebecca et Isaac vont... Parce que c'est Rebecca qui va aller consulter Dieu hein, et qui va avoir la réponse. Rebecca et Isaac vont connaître le plan de Dieu pour leurs enfants. Et ils auront une promesse, il y a deux nations. Donc c'est deux nations qui sont dans ton ventre. Et il y a aussi cette parole, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est dit avant la naissance, donc avant qu'il fasse le bien ou le mal. C'est un choix hein, par rapport, ça sera donc le plus jeune, en l'occurrence Jacob, qui sera l'objet de la promesse. La promesse, la lignée, va passer par Jacob. Il est arrivé à plusieurs reprises que des parents, des fois, sachent très tôt, soit avant la naissance, soit au moment de la naissance, ce que Dieu pouvait leur laisser entrevoir. Ce que Dieu allait faire avec leurs enfants. On pense aux parents de Samson. On pense aux parents de Jean-Baptiste. On pense, bien sûr, aux parents de Jésus. Tout en ne mesurant pas tout. C'est toujours pour préparer les enfants. C'est pour les orienter dans l'éducation de l'enfant. Et c'est aussi pour les aider à accepter. Parce que des fois, c'est pas toujours évident. Hein, si je reviens sur les parents de Samson, le petit Samson lui laissait les cheveux longs. Hein, c'était bon, un beau signe de consécration. Alors je pense pas qu'il allait à l'école, mais les autres ne devaient pas lui faire cadeau. Il a les cheveux longs, etc. Et bon, apparemment, il savait se défendre. Isaac, il a eu du mal à accepter que l'aîné soit assujetti au plus jeune. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et ça explique l'erreur qu'il va commettre, on reviendra dessus, dans Genèse, verset 27, à chapitre 27, quand il a voulu bénir Ésaü au lieu de Jacob. Je voudrais mettre cette pensée sur votre cœur. Cherchons à faire entrer nos enfants dans le plan de Dieu et pas dans nos plans. Allez, je le dis. J'ai joué au rugby toute ma vie. Et j'étais pas gros et pas grand. Et j'en fusque, vous avez vu, hein. J'aurais pu me projeter pour qu'il soit un rugbyman. Et il n'aime pas le rugby. Je veux dire, des fois, on pourrait coller à nos enfants nos envies. On voudrait les faire rentrer des fois dans notre programme. Et dans des plans qui sont humains. On cherche à les faire entrer dans le programme de Dieu. On a vu parfois des enfants qui étaient appelés au ministère et les parents ne suivent pas. Pourtant, des chrétiens, hein, ils ne suivent pas parce que ce n'est pas dans leur programme. Et je crois qu'il faut... Alors, c'est vrai qu'on veut orienter nos enfants, mais pas les manipuler. C'est vrai dans d'autres domaines, dans le choix des études. Des fois, les enfants vous disent... Quand je serai grand, Alors, je ne voudrais pas blesser quelqu'un, là, mais... Bon, mais je serai... Allez, cantonnier. On va dire, attends. On va voir. On va corriger. Ou des fois, certains disent, je suis astronaute. On va le faire, on va essayer de l'orienter pour que ce soit réalisable. Surtout si... Je me rappelle toujours, hein, ce jeune... C'était un pré-ado ou un ado. Il travaillait mal à l'école. Alors, je lui demande, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il me dit, chirurgien. C'était pas un enfant de. J'ai ouvert les yeux, il a vu ma réaction, mais c'était pas cohérent. Voilà, il faut des fois, on veut les aider, on veut pas les manipuler. On veut pas leur imposer nos choix. Mais on veut bien les orienter, puis surtout les aider à rentrer dans le plan de Dieu. Alors une autre pensée. Il y a un gros raté dans l'éducation des enfants. Le verset 28. Je vous le relis parce que chaque fois que je lis ce verset. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Oh lolo. Là, il y a un gros problème. Pourquoi Ésaü était préféré d'Isaac? Parce que c'est un mâle. C'est un sportif. C'est un chasseur. Et parce qu'il aime le gibier. Pourquoi Jacob est moins aimé d'Isaac? C'est une femmelette. Un casanier, toujours dans les jupes de sa mère. Et puis peut-être aussi parce que son tempérament de petit rusé, ça l'agaçait. Il savait y faire, le Jacob. Pourquoi Jacob était moins aimé? Pourquoi Jacob était préféré de Rebecca? Parce qu'il était toujours là, avec sa tête d'ange et son petit sourire. Maman! Il savait y faire, le Jacob. Il était gentil. Il savait comment répondre à sa mère. Et pourquoi Ésaü était moins aimé de Rebecca? Parce que peut-être il n'était pas très beau. Il est né tout roux et poilu. Ouais, mais c'est... Je peux comprendre qu'il fuyait dans les bois et... Ésaü, il n'a pas bonne presse dans la Bible, hein, parce qu'il est, le symbole du profane. Mais des fois, je me dis, je me mets à la place d'Ésaü. Il est né, on l'a appelé roux, on aurait pu l'appeler le poilu. Je veux dire, c'est un bébé comme ça, qui naît comme ça, c'est... Il était peut-être repoussant, peut-être qu'elle l'a mise de côté. En plus, ce n'était pas celui qui était choisi alors. Enfin, tout ça, ça fait du dégât. Hein. Tout ça, c'est... Et l'attitude des parents a amplifié la différence et a augmenté la fracture. L'un a développé son caractère brutal et sauvage. C'était un ours. Et l'autre, de son côté, il a développé le côté rusé. On l'appelait trompeur, alors forcément. Ah, tu portes bien ton nom, et il a... Ça l'a poussé, incité dedans. C'est... Mais finalement, c'est... lorsqu'ils vont se retrouver, ils vont marchander, là, un petit peu le droit d'aînesse. Ça ressemble à une discussion d'ado, hein. Ça embrouille, marchande. Mais c'est assez caricatural, hein. On voit le Ésaü qui est un peu bête, un peu qui réagit pas, qui... Il méprise le droit d'aînesse. Jacob qui ruse, qui filoute, c'est assez caricatural. Mais la fracture, elle est là. Le déséquilibre dans l'amour des parents a eu de lourdes conséquences. Nos enfants, on veut les aimer d'une manière juste. Même si quand on en aura deux, trois, quatre, il y en aura deux, trois, quatre, il n'y en a pas un qui sera pareil. Il y en a un qui... Il réussira partout. Puis l'autre, il y en a un qui vous fera transpirer. Il n'y en a pas un pareil. C'est comme ça. Et être juste dans son amour, ça ne veut pas dire... Il y en a un qui va vous ramener un 12. C'est super, mon chéri. Mais il y en a un autre qui vous ramènera un 12 parce qu'il n'a rien fait, mais il a simplement écouté. Ça sera pas toujours, on n'aura pas toujours la même attitude. Mais en même temps, on a le défi de ne pas faire des différences. D'avoir sur de mauvaises bases, parce qu'il aimait le gibier. C'est quand même... Et puis, justement, on n'aime pas, on veut aimer nos enfants d'une manière désintéressée, surtout pas égoïste. Je reviens sur le gibier, hein, mais... Mais l'attitude d'Isaac, elle est attristante. Jacob commettra un peu la même erreur. Il préférait les enfants de Rachel. Il y en avait deux sur les 12. Au point d'offrir un cadeau à Joseph, devant les autres en plus. C'est... On veut les aimer aussi dans un esprit de pardon. Je me mets à la place du père du fils prodigue. Il y a un esprit de pardon qui est là, et des fois, il y a des enfants, ils peuvent s'allier à notre nom, ils peuvent... quand ils ont grandi. On veut les aimer dans la vérité. Mais, en tout cas, on veut les aimer d'un amour qui est juste et équitable. Pas toujours facile. Hein. Le rôle de parent, c'est facile que pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Une fois qu'on est dedans, c'est compliqué. Je voudrais ajouter une autre pensée. Il est clair qu'il y a un problème de communication dans le couple. Hein. Ce problème, il arrive à... On le voit là, puis on le voit encore plus dans le vol de la bénédiction. Je vous rappelle, à un moment donné, Isaac, il pense qu'il est vieux, qu'il en a bientôt fini, alors qu'il va vivre encore des années. Il veut bénir Ésaü, il s'entête. Et donc il dit à Ésaü, va me chercher du gibier, puis je vais te bénir. Il décide de bénir Ésaü à l'insu de Rebecca. Mais Rebecca, elle stoppe le mail ou le SMS, elle le capte. Et elle décide, elle, à l'insu d'Isaac, elle va voir Jacob, elle dit, tu vas faire ça, ça, ça. Il y a quand même un problème de communication hein, dans le couple. Il est important d'être d'un commun accord. Et cela demande un effort, surtout messieurs. Mais messieurs, on n'est pas les champions de la communication. Dis-moi que tu m'aimes. Tu sais, je t'aime. C'est bon. On le sait, mais c'est important. En tous les cas, il y a quelque chose. Genèse chapitre 26, verset 34. Des versets qui appuient sur le problème de la communication, mais ce n'est pas ce que je veux souligner ici. Genèse chapitre 26, verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille de Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Chapitre 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» La dernière phrase, elle est un peu... À quoi me sert la vie ? Et puis, chapitre 28, versets 6 à 9. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Et Ésaü comprit, ainsi que les filles de Canaan, déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalath, fille d'Ismaël, fille d'Abraham, et sœur de Nebajoth. Amen. Isaac et Rebecca sont d'accord sur un point. Leurs enfants ne doivent pas se marier avec des enfants de Canaan, dont les mœurs étaient complètement dépravées, même si le point n'a pas été atteint, et ça viendra 400 ans plus tard. Les mœurs étaient déjà là. Il y avait des pratiques qui étaient condamnables. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Pourtant, Ésaü, il va se marier avec deux femmes du pays. Et il nous est dit que ce sera un sujet de tristesse et d'amertume pour Rebecca. Et puis, on voit finalement qu'à un moment donné, Ésaü, il va comprendre qu'il a fait une erreur. En voyant et en entendant ce que Isaac va dire à Jacob. Et là, il va ouvrir les yeux. Et donc, après, il va prendre une cousine, quelqu'un de la famille. La question que l'on se pose, est-ce qu'il l'a compris si tardivement parce qu'il était têtu ou est-ce parce qu'on ne lui a jamais dit ? Une question que l'on se pose. On n'a pas la réponse, on peut l'imaginer, chacun se fait son avis. Il me semble quand même que la communication est mal passée. En tout cas, ça nous amène sur une responsabilité. Hein. N'ayons pas peur de dire la vérité à nos enfants, hein. Même s'ils nous trouvent vieux jeu. Et je rappelle ici que la parole de Dieu, elle recommande de se marier avec des croyants. C'est... des gens qui vont partager notre foi. Et j'irai même plus loin. Pas seulement avec quelqu'un qui est baptisé, hein, avec un disciple de Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui a pris le baptême mais qui n'a jamais ouvert sa Bible, en principe, on ne baptise pas. Mais des fois, ça peut passer à travers. Mais ce n'est pas ça. On veut un disciple. Marie-toi avec un disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui aime la présence de Dieu, quelqu'un qui cherche à avancer avec Christ, pas quelqu'un qui fait une apparition de temps en temps et parle de Dieu comme ça. Mais c'est quelque chose d'important. Préparons nos enfants au choix. Ils vont faire des choix, et des choix importants. Bien sûr, le choix le plus important, c'est celui de la conversion à Jésus-Christ. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants se tournent vers Jésus. Et on prie pour ça, et on le désire, c'est notre priorité. Si nos enfants réussissent partout, mais ils ne donnent pas leur vie à Jésus, on a échoué, dans un sens. Alors je ne veux pas culpabiliser, mais responsabiliser, parce qu'on ne maîtrise pas en même temps. Mais on veut les aider aussi à préparer leur choix d'études, leur choix du mariage. Les choix professionnels aussi. Il y a des métiers, j'aurais freiné mes enfants. Je ne connais pas un cuisinier qui a tenu dans la foi. Pourquoi ? Parce que les horaires sont incompatibles avec une vie d'église. Et chaque fois qu'un jeune me dit « je vais rentrer dans la cuisine », oh là là ! Mais c'est l'expérience qui nous fait dire ça. Alors je ne sais pas si quelqu'un avait ce projet-là. La cuisine, c'est sauf si on est dans un rythme scolaire ou quoi. Mais autrement, c'est bon pour le loisir, quoi. Genèse chapitre 26, verset 6. On revient un petit peu en arrière. Genèse chapitre 6, verset 6, donc je rappelle un peu le contexte, ils sont à Guérar auprès d'Abimélec, et Isaac va mentir. Verset 6, « Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur. » Car il craignait en disant, « Ma femme, que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. » Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Et Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Amen. On lit cette histoire, pour ceux qui connaissent la Bible, il y a une impression de déjà-vu. Avec Abraham, Isaac a tendance à faire les mêmes erreurs que son père. Il prend aussi le bon modèle, mais il a tendance à faire les mêmes erreurs. Ce que je voudrais souligner, c'est que les deux vont se mettre d'accord pour mentir. La Bible nous invite à nous unir pour prier, si deux ou trois s'accordent, oui, pour demander. Mais là, les deux se mettent d'accord pour mentir. En soulignant quand même que ce n'était pas le même prix pour les deux. Parce que pour Rebecca, il y avait quand même un risque énorme. Mais ils s'unissent pour mentir. Et on perçoit que finalement, quand on a l'habitude de mentir, ça fait des petits dans une famille. Des petits mensonges, ça fait des grands menteurs. Et ça fait des petits comme Jacob, les spécialistes du mensonge après. Isaac, alors il a reproduit ce que son père a fait, en soulignant quand même ils étaient cousins de deuxième degré, donc la sœur. Là on est du trois quarts de mensonge, si on peut raisonner comme ça. Et puis, il savait très bien que Dieu n'avait pas approuvé l'attitude d'Abraham. Ça, il le savait. Et il le fait quand même. Et puis, en plus, Dieu lui avait parlé juste avant, lui disant, « Reste dans ce pays. » Donc, quand Dieu nous dit « Reste quelque part », c'est qu'il n'y a pas de crainte. Des fois, on fait des mauvais choix et ça panique très vite. C'est ce qui s'est passé lorsque Abraham était parti en Égypte, par exemple. Il a paniqué. Mais quand on est là où Dieu veut qu'on soit, il n'y a pas à paniquer. Il est là. En tous les cas, ils vont mentir. Notre Dieu désapprouve le mensonge. Et le mensonge, je dirais, dans la maison, c'est quelque chose de dangereux. Ça nous conduit dans un engrenage. Je le dis toujours, mais le mensonge, c'est toujours le deuxième péché. Je fais quelque chose de mal, et pour couvrir, je mens. C'est toujours le deuxième péché. Et le mensonge, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre. Et surtout dans la maison. Un mari ne ment pas à sa femme, une femme ne ment pas à son mari. On ne ment pas à nos enfants, en commençant par le Père Noël, mais il y a la suite après. Mais on ne ment pas à nos enfants. Ça a coûté très cher à un couple, hein, qui se sont unis pour mentir. Ananias et Saphira. Alors peut-être qu'il y avait des antécédents, je ne sais pas, hein, mais en tous les cas, à un moment donné, Dieu a sanctionné. Mais, alors il y a une différence aussi quand même dans la motivation. On parlait hier avec la jeunesse, parler de ces deux femmes, sages-femmes qui ont menti pour sauver des juifs, pour sauver des enfants hébreux, entre mentir pour cette raison et mentir par lâcheté, ou mentir de manière préméditée pour obtenir quelque chose, c'est encore autre chose. Et Dieu fait la différence, même si, mais le mensonge, c'est non. Mais j'ai des fois vu des situations assez étonnantes où des enfants sont. On leur inculque le mensonge. Il faut mentir. Si la dame te demande pourquoi tu fais ceci ou s'il y a quelqu'un qui habite à la maison, tu dis non. Ouais, mais c'est comme ça qu'on détruit nos enfants. Hein. J'ai eu un père, je me permets de le dire, j'ai eu un père qui était dur au niveau communication de l'amour. Il n'a pas su communiquer. Mais je me souviens de mon père sur le plan de la droiture. Ouh là là. Et dans une affaire d'héritage, un jour, il y avait un héritage et donc ils étaient devant notaire avec son frère, sa belle-sœur, etc. Et puis à un moment donné, le notaire a posé une question. Mon père, il répondait d'un texte. Et là, il a reçu un coup de pied sous la table. Ça voulait dire « Tais-toi ». Il a regardé, et là, lui, il ne supporte pas ça. Et il a tout dit. Il ne supportait pas ce genre de choses, et ça l'a caractérisé. Mais ça m'a marqué. On refuse le mensonge. Si on grandit dans une atmosphère de mensonge, ça sera difficile de s'en défaire. Ça sera difficile de marcher dans l'intégrité. Ça sera dans notre manière de fonctionner. La Bible veut qu'on soit des gens qui aiment la vérité, qui aimons l'intégrité. Et on a déjà une capacité à se mentir à nous-mêmes. Déjà là, c'est... Alors si en plus, on a l'habitude de mentir, mais le mensonge, c'est quelque chose qu'il faut absolument. Nous sommes des gens de la vérité. La Bible nous dit qu'on est de la vérité parce que Jésus-Christ nous a sauvés. Et on marche dans la transparence. Le frère, la semaine passée, il disait qu'on mélange tout. Hein. Et en tous les cas, je crois qu'on mélange d'abord nos cœurs et il doit y avoir cette transparence. Dans un couple, on ne peut pas avoir des jardins secrets, des choses qu'on cache à son époux ou à son épouse. Et puis, avec nos enfants, on marche l'intégrité, on dit les choses. Après, il y a des choses à pas dire. Parce qu'ils ne sont pas en âge de l'entendre. Parfois, on va dans certaines familles où on partage tout devant les enfants. Non, c'est pas bon. On protège les enfants. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre à un certain moment. Plus tard. Mais en tous les cas, on est sur la transparence et l'intégrité. J'ai vu parfois des épouses devenir complices du mensonge de leur mari, entraînées, et plus savoir comment s'en sortir. Et se faire manger à l'intérieur, et ça a été une catastrophe. Je termine simplement en disant ceci. D'abord, je termine ceci en disant que malgré tous ces manquements, ce couple, il s'en est bien sorti. Hein, et ça rassure. La famille parfaite, elle n'existe pas. Et on a dans tous les couples, il y en a qui s'en sortent tant bien que mal, mais ça me rassure. Isaac et Rebecca, j'ai souligné un petit peu les défauts, mais ils avaient des bonnes choses. J'aime beaucoup quand Abimelech les a vus en train de plaisanter les deux là. Je trouve elle est belle cette image. Ça démontre une belle communion entre les deux. Mais nous voulons la bénédiction sur nos familles. Alors, des fois, ce n'est pas toujours évident parce que certains sont convertis, les autres ne le sont pas. Il y a tellement de cas de figure différents. Mais c'est par notre manière de vivre, avant tout. C'est par nos choix de vie. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux la bénédiction dans ta maison, dans ton foyer, Commence par accepter Jésus comme sauveur. Donne-lui les clés de la porte d'entrée. Il faut qu'il règne, il faut qu'il soit ton sauveur. Et pour tous les autres qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, on veut lui donner les clés de toutes les portes. La cuisine, c'est-à-dire ce qu'on mange, de quoi on se nourrit. Le salon, ça nous parle des relations. La salle de bain, c'est l'hygiène. Vous transposez tout ça sur un plan spirituel. Hein. La chambre, l'intimité des... Et puis on pourrait parler sous la cave, le grenier, enfin, vous voyez, on veut donner au Seigneur toutes les clés de notre maison. On veut qu'il soit Seigneur, que le Seigneur nous aide. Je le dis bien, être un époux formidable, une épouse idéale, un père idéal, une mère idéale, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Mais on veut l'être. Et on veut avancer dans cette direction-là. Que le Seigneur nous aide à progresser. On veut prier le Seigneur ?